dans des conditions soustrayant la personne à la protection de la loi. Or, nous savons que cette phrase, qui est très controversée, a été reléguée à la fin de la définition dans l'article 2 de la Convention, et que le comité a une jurisprudence constante jusqu'à présent que ce n'est pas un élément constitutif de la disparition forcée. Moi, ça m'inquiète. Parce que quand on dit dans les arrestations, détentions, etc., dans les conditions ou dans des conditions, le soustrayant ou la soustrayant, la personne, à la protection de la loi, d'abord, c'est un élément constitutif. Ça alourdit la tâche du juge. Ensuite, qui va évaluer, qui a la discrétion d'évaluer quelles sont ces conditions. Ça enlève quand même beaucoup de force à une définition qui est là pour protéger, au maximum, pour protéger les victimes. Maintenant, je reviens à autre chose. Dire que les agents de l'autorité, quels qu'ils soient, force armée ou autre, que chaque fois qu'ils interviennent, ils peuvent invoquer le fait que ils sont en état de légitime défense, mais bon, à la limite, oui, ils peuvent invoquer ça s'il y a légitime défense. Mais la légitime défense a un certain nombre d'éléments, de conditions. En principe, elle ne doit pas être présumée. Ça doit être évalué cas par cas. Mais dans le cas des autorités, des forces de l'armée, moi je dirais que, comme on dit, noblesse oblige. Ils ont la force de leur côté. Il y a quelqu'un d'autre qui peut être très vulnérable vis-à-vis d'eux, enfin, devant eux, qui entre en relation avec eux. Normalement, on devrait avoir plutôt des garde-fous, et pas l'inverse. On devrait être très vigilant pour que qu'on ne tombe pas dans l'arbitraire. On sait, par exemple, bon, que je ne vais pas faire un cours de droit pénal, mais par rapport à la légitime défense, une des conditions, c'est qu'elle doit être nécessaire. Et si elle est nécessaire, elle ne peut pas être... C'est très grave d'inclure cette nécessité comme ça dans un texte. C'est nécessaire. Non, c'est le juge qui doit déterminer si c'est nécessaire. Parce qu'il peut y avoir d'autres moyens de réagir et il faut utiliser ces moyens quand ce n'est pas nécessaire. Maintenant, clore, parce que par rapport à tout le climat, je dirais qu'on a eu pendant cette interaction. Je voudrais insister sur une chose très importante. La Convention commence par l'article 1 qui dit « nul ne doit être victime d'une... » Bon, je suis pas en train de citer exactement l'article, mais je peux le citer. « Nul ne sera soumis à une disparition forcée. » C'est une formulation très, très, très... qui n'est pas souvent utilisée. Et on est devant un droit de l'homme absolu, comme pour la torture. Nul ne peut être torturé. Et puis, il n'y a pas de possibilité de déroger à ça. Nul ne peut... Donc, et bien sûr, l'État doit inscrire ça aussi dans sa... Non seulement dans sa législation, dans son arsenal juridique, mais aussi dans sa pratique quotidienne, celle de ceux qui sont normalement chargés de, d'exécuter la loi, hein, et qui sont là pour accomplir ce qu'on appelle due diligence pour bien sûr protéger les citoyens, pour protéger toutes les personnes qui se trouvent sous leur juridiction. Voilà. Je vous remercie.
Merci. Merci beaucoup pour ces dernières remarques donc, qui viennent clore les questions, cette deuxième partie des questions des membres du comité. Et donc, il nous reste maintenant 30 minutes. Un petit peu plus de 30, oui, 30,